une sorte de contradiction interne dans la société.
On n'est pas des cadeaux.
La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas.
Sur Radio Canu, la plus...
Encule.
Oh.
Enculé.
Oh. Enculé ou enculé.
Enculé.
La plus... des radios.
Entre le stade, le PMU et le Bricorama, ils sont quand même très ghettos, les hétéros.
On n'est pas des cadeaux.
Émission transpédéguine et féministe.
Est-ce qu'on appartient à l'humanité? Est-ce qu'on relève de l'humanité si on n'est ni un homme ni une femme?
Cadeaux.
C'est pas en demandant poliment, vous ne voudriez pas nous enlever de nos nosographies psychiatriques, on va l'obtenir. C'est en tapant des poings sur la table, c'est en occupant les lieux. Personne ne nous écoutera si on ne montre pas à la société la violence qu'elle nous fait subir.
L'hétérosexualité, c'est aussi naturel que l'enclos électrique dans lequel on parque les vaches. Bonsoir.
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 Alors, bienvenue pour une émission qui va parler de YouTube et de plateformes de vidéos à la demande. YouTube est un site qui, en 2018, chaque mois, compte plus de 1,9 milliard d'utilisatrices connectées. C'est un média social sur lequel les utilisateurs et utilisatrices peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer et même partager des vidéos. Alors même si la barrière est plus floue que dans un magasin, il y a quand même celle qui consomme YouTube et celle qui fabrique du contenu, crée des chaînes.
Et il y a aussi des passionnés qui inventent et qui mettent en place des plateformes alternatives, moins capitalistes. Donc aujourd'hui, nous avons invité Powy et Victor qui sont membres du collectif Queer to Peer et qui ont monté QueerTube. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et donc, vous allez parler avec nous de votre usage de YouTube aujourd'hui et nous allons ensuite vous interviewer sur la plateforme QueerTube pour mieux comprendre ce que c'est et dans quelles intentions vous l'avez créée.
Alors, la première chose dont on avait envie de parler dans cette émission, bah, c'est ce qu'on fait, nous, de YouTube. Qu'est-ce qu'on y regarde, pourquoi et qu'est-ce qu'on veut y trouver?
Moi, j'avais envie de dire que mon rapport à YouTube, il a changé. Je pense avant, je regardais de la musique, je regardais des captations de conférences ou des tutos de mécanique. Et puis ensuite, je me suis rappelé que j'étais féministe et que du coup, ça impliquait en général cette espèce de réflexe que c'est pas mal d'apprendre à avoir, qui est de qui c'est qu'on écoute, qui c'est qu'on valorise, quelles sont les personnes qui savent et qu'on a envie de soutenir et de partager en fait ce qu'ils et elles font. Et que en fait, c'est pas les mêmes personnes qui ont de la valorisation dans le reste de la société. Donc pourquoi pas faire ça avec YouTube ? Parce qu'au final, je me suis rendu compte que maintenant, je regardais plutôt des chaînes C'est-à-dire, en fait, des personnes qui fabriquent des contenus, des univers auxquels je m'attache. Et il y a aussi la question de la vulgarisation, ou on pourrait dire des cours, parce que moi, je vois YouTube comme un espace où je peux avoir des cours sur des milliards de trucs, en vidéo, et avec un point de vue subjectif assumé.
Eh bien, moi aussi, mon rapport à YouTube, il a changé. Et moi, j'ai l'impression que plus je traîne sur ce réseau-là, et plus je le trouve bizarre. Parce que ça fabrique quand même une situation où on est seul. En principe, moi, j'utilise ça seul. Hein, devant son écran, avec une personne qui nous parle. Donc, vu de l'extérieur, je trouve que déjà, ça a l'air bizarre. Mais du coup, ça fabrique une espèce de situation d'intimité, mais qui est ouverte dans un sens, mais pas dans l'autre. Parce que moi, sur YouTube, je fais que recevoir, en fait, le contenu des vidéos. Je les consomme, en fait. Moi, j'ai plutôt l'impression de les consommer, sauf dans les cas où, comme toi, je les utilise pour réparer quelque chose, mais ça m'arrive pas très souvent. Et j'ai vraiment, en fait, l'impression d'être dans une espèce de... juste de réception, quoi. C'est un peu le même principe, je pense, sur les trucs d'ASMR, qui sont ces vidéos où les gens chuchotent comme ça dans le micro pour vous détendre. Moi, ça me détend pas du tout. Au contraire,
tu vas pas le refaire.
Non, c'est un peu. Donc, je regarde pas ce genre de vidéos, mais j'ai l'impression d'envisager toutes les vidéos YouTube comme des trucs d'ASMR, donc des trucs qui vont entrer en contact avec presque une intimité physique chez moi, et que ce soit une vidéo de critique sociale ou un clip, quoi. C'est un peu du pareil au même, et c'est toujours un truc assez physique chez moi.
Est-ce que tu avais envie de parler de maquillage ?
Oui, évidemment. On n'évoquerait pas trop ce point-là sans parler de maquillage. Alors, le tuto de maquillage, c'est en effet un truc que moi je regarde beaucoup. Pas nécessairement pour apprendre à me contourer, parce que de toute façon, je sais pas faire et ça ne m'intéresse pas. C'est dans la recherche de ce contact physique-là. Moi, j'ai l'impression de regarder des vidéos de maquillage parce que les gens se touchent sur ces vidéos-là. Et que, par un espèce de truc d'empathie qui se fait assez automatiquement chez moi, j'ai l'impression que c'est moi qu'on touche. Alors que c'est pas le cas. Mais en fait, ça m'apaise et ça me détend. Et je pense que ça répond aussi à un truc d'isolement physique. Et c'est pour ça que ça fabrique une situation d'intimité. C'est que ça permet en fait de se sentir choyé quelque part en choisissant une vidéo où on va voir quelqu'un s'occuper d'un truc en particulier, donc s'occuper, je sais pas, de sa peau, de son fard à paupières. Et donc je trouve qu'il y a il y a une réception physique de YouTube qui est très étonnante quand on la décrit comme ça, quoi.
Et vous avez envie de nous raconter ce que vous faites sur YouTube, ou pas ?
Alors, j'utilise un peu... j'ai une utilisation de YouTube semblable à tienne. C'est-à-dire qu'au début, j'avais tendance à regarder tout type de contenu comme ça, sans vraiment... sans vraiment porter d'importance à qui est-ce que je valorisais. Et maintenant, je trouve beaucoup plus d'importance à qui est-ce que je regarde. Enfin, ça dépend de comment je regarde le contenu. Et du coup... aujourd'hui, j'ai plus tendance à regarder aller chercher des vidéastes queer, certaines... minorités que j'aimerais bien voir plus représentées médiatiquement. Il faut rappeler que YouTube est un média. Et voilà.
Moi aussi, mon utilisation a beaucoup changé. J'ai l'impression de répéter tout ce qu'ont dit les personnes avant moi. Mais j'ai l'impression que j'ai deux types d'utilisation de YouTube. J'ai le moment où je suis devant une vidéo et je vais vraiment la regarder, l'écouter, m'enrichir, c'est de la vulgarisation, enfin m'enrichir. Et le moment où il y a YouTube sur mon téléphone ou sur mon PC qui tourne en arrière-plan juste pour faire du bruit parce que, enfin, je sais pas, si je suis pas en coloc, je suis tout seul. Et du coup, bah, j'ai l'habitude de laisser YouTube tourner en arrière-plan, surtout que maintenant on a la lecture aléatoire qui lance en visant en continu tes vidéos et on a toujours quelque chose à regarder. Mais pareil, dans les moments où vraiment je cherche à regarder des vidéos qui m'intéressent, bah, souvent je cherche du contenu un peu queer pour... Parce qu'on a aussi envie d'avoir de la représentation, un petit peu des fois, représentation qu'on n'a pas forcément dans les autres médias, comme la télé, les films, etc. Donc voilà, mon initiation a beaucoup évolué aussi sur les dernières années.
Et alors moi j'ai une utilisation un peu, j'ai l'impression aussi, aussi en partie ce que vous avez dit, mais une utilisation collective, c'est-à-dire qu'avec mes potes TPG, on fait des booms YouTube. Avant, on avait de la musique sur nos ordinateurs ou sur nos clés USB. Et ben maintenant, on lance YouTube et c'est qui est-ce qui va mettre la prochaine chanson, etc. Et voilà. Et même la dernière anniversaire où je suis allée, on a dansé devant YouTube parce que c'est un logiciel, du moins c'est un jeu qui est sur Wii. Et où il y avait des extraits sur YouTube, et où du coup c'est de la danse, et c'était absolument génial. Mais voilà, ça fait une utilisation collective où on est devant un écran à plein, ou devant des baffles à plein, et sur YouTube.
Très bien. Et moi, je crois, un des trucs que j'apprécie sur YouTube, c'est que, en fait, il y a plein de contenus qui valorisent la prise de soin de soi, et notamment... tout un côté qui est, disons, plus orienté autour de trucs de féminité, là. Et moi, je me rends compte que ça me fait travailler, en fait, sur ma misogynie. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de créatrices, de youtubeuses qui parlent aussi de ça. De où est-ce qu'on attend les femmes et de comment est-ce qu'on a aussi envie de valoriser cette partie-là qui est celle du soin de soi, d'un rapport à l'esthétique, etc.
Coucou les filles, alors aujourd'hui on va parler de mes favoris lifestyle. Alors en premier on va parler de cette bougie qui est super super top, elle sent trop bon, j'adore. Stop, on arrête tout. Oh merde. Alors on a la bouffe, la lecture, le make-up, ça c'est bon, c'est vachement bien fait. Les films, les séries, le sport, fitness, tout ça, fit girl. Mais il manque pas quelque chose là. Non, vous voyez pas. Mais l'amour, enfin l'amour ou pas d'ailleurs, on s'en fout. Juste le plaisir, le sexe. Oui, les femmes, ça prend du plaisir. Oui, les femmes, ça a du désir. Jusqu'à présent, en me baladant sur YouTube, j'ai trouvé très 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 peu de personnes qui me parlaient de masturbation, de trucs pour améliorer sa vie sexuelle. Alors que pour moi, c'est un kiff parmi tant d'autres, mais moi j'aime bien tester plein de trucs, des sextoys, des jouets, des accessoires. Et du coup, j'ai décidé de partager ça avec vous. Bah oui, c'est comme ça que ça marche YouTube. Tu trouves que ça manque? Fais-le toi-même.
Et puis il y a aussi la question du face caméra en fait, qui est moi quelque chose que, enfin je fais partie de médias, mais je pense que j'oserais jamais avoir ce type d'exposition, d'être en face d'une personne dans un espace qui en général est un espace intime, parce qu'il n'y a pas la thune pour avoir autre chose, et de raconter des choses quoi. Et c'est beaucoup plus pratique d'appliquer ces astuces dans l'intimité de ma maison, au moins je suis tranquille, voilà. Et en fait, je trouve dans les vidéos, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de discours, de coaching individuel. Et ça marche sur moi, voire ça me fait faire des choses que j'aime. Et par exemple, écoutons ça.
And now, it is time. It's time to make it real, to make it better, make it more functional, happier, more evolved. Allow space to be space and organize physical space to reach out a better organized mind. Take the challenge and fully experience it, not just the floor. Stop accumulating endless objects on the floor. Do what you see, do better. Build the space around you instead of letting it be an infinite barrier. Give it your time and effort. Fall in love with the space again and conquer it. I made a small-scale representation of the corner joints and chose off flap joints to connect all the studs. The final size of the platform will be 250 by 130 centimeters. This method of making half laps is really quick once you get the first one right. Some cleanup with a chisel makes everything work fine in the end. Now for the height. I'm pretty small and I also want to preserve the upper height from the platform to the ceiling as much as possible, so I'll just make sure that me and my hair can fit under the platform. I flipped the structure over to see if everything was good and detached the legs so I could move the structure around. Okay, this is not working. Take off the shirt and try something else. Now let's wrap up the sanding and break the sharp edges because I want to keep a crisp edge look, but don't want to cause too much damage if someone bumps the head on the structure, which is very possible.
Alors on vient d'écouter un morceau de la chaîne Get Hands Dirty. D'ailleurs c'est le premier épisode de la chaîne qui est mixé avec un morceau de musique de Prolétaire, qui aussi est de la musique accessible sur YouTube. Alors moi j'ai eu envie de vous faire partager cette vidéo. Alors à l'écoute ça rend plus ou moins bien et puis bon bah c'est en anglais, hein, désolé. Mais n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il y a des sous-titres. J'ai eu envie de partager cette vidéo maintenant parce qu'en fait c'est une vidéo qui m'a permis de me motiver à fabriquer quelque chose. Alors moi j'ai déjà pas mal fait de chantiers de bois, donc là on parle d'une chaîne Get Hands Dirty, donc ce qui veut dire salis-toi les mains et motive-toi à faire des choses. Et elle travaille surtout bois, mais pas que. Et elle fait des vidéos pour montrer comment est-ce qu'elle travaille, qu'est-ce qu'elle y trouve, etc. Donc moi, j'avais déjà une pratique du bois, j'ai construit pas mal de trucs, mais c'était toujours pour le confort d'autres personnes. J'étais invitée sur des chantiers collectifs, et c'était vraiment super, mais à aucun moment, je me suis dit, bah, en fait, cette expérience que j'ai, je peux aussi l'avoir et la mettre en place uniquement pour moi-même. Et ça m'a aussi posé la question de bah, quels étaient les bouts de mon expérience que je valorisais. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais me fabriquer une mezzanine, comme ça, en dessous, je vais pouvoir me fabriquer un bureau et je vais avoir un espace de travail adapté qui va répondre à mes besoins. Et dans les petits moments où ça n'ira pas bien et où j'en aurais marre de regarder YouTube, au pire, je pourrais lever les yeux et de me dire, bon, j'ai au moins fait ça. Voilà, alors évidemment, j'ai dû adapter à ma sauce ces conseils parce que c'est bien mignon, mais j'avais pas la thune pour reproduire à l'identique. Parce que pour pouvoir faire comme toutes ces personnes qui présentent autant de produits, il faut avoir plein de thunes, et ça n'est pas mon cas.
Eh ben moi, je vais rebondir sur ce que tu disais, je trouve que ça nous renvoie, je trouve, à la question de ce qu'on va chercher comme savoir sur YouTube. Parce qu'en effet, il y a aussi un côté bibliothèque en ligne de tous les cours possibles pour fabriquer une mezzanine, réaliser tel look pour telle soirée, savoir réparer son téléphone, etc. etc. Donc il y a plein de savoirs qui sont à disposition, qu'on peut utiliser, qu'on peut choisir. Enfin, moi, j'ai plutôt l'impression de les consommer, ces cours-là, quoi. Mais je trouve qu'il y a aussi plein de savoirs. Hein. C'est une plateforme qui permet aussi à plein de savoirs d'expérience d'exister, ou en tout cas d'être accessible de cette manière-là. Non pas qu'ils n'existent pas en dehors de YouTube, c'est pas du tout ça, c'est juste qu'là, ils ont un statut qui est très particulier. Par exemple, l'expérience des traitements hormonaux dans les parcours de transition, y a plein d'infos sur YouTube autour de ce que ces traitements-là ils font, et c'est des informations qui sont celles d'un vécu, et je trouve que c'est ça qui leur donne une vraie valeur, il y a une vraie richesse là-dedans. En plus, c'est de l'info accessible sous forme anonyme, et c'est l'intérêt de ce truc d'intimité qui est juste une réception, quoi. A priori, personne me voit consulter ces vidéos si j'ai besoin de les consulter anonymement. c'est ce qui fait un peu, je trouve, la différence avec une information qu'on irait chercher, par exemple, dans une permanence. C'est l'utilisation de cette information qui est un peu différente, parce qu'elle est, elle arrive dans un contexte où sur YouTube, il y a pas ou peu de communication, là où en fait c'est une dimension qui est complètement engagée dans une permanence, ce truc de communication. Je sais pas si ça vaudrait le coup de poser le pour et le contre, je pense pas. Mais c'est du coup des utilisations de l'information, ouais, je trouve qu'ils sont vraiment différentes. Et moi, quand je réfléchis à cette pratique-là, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos là-dessus, sur des récits de voilà, ce que tel ou tel traitement m'a fait, voilà, donc du coup, les avis divergent, ça fait pas les mêmes effets à plusieurs personnes, à des personnes qui sont différentes, ça on s'en rend compte. Ce qui, moi, continue à me gêner là-dedans, c'est que ça répond pas, en fait, à mes questions. Ça répond à des questions générales qui sont, si on recoupe statistiquement les questions que les gens se posent sur les traitements hormonaux, ça répond à ces questions-là. Mais ça répond pas aux miennes. Ça répond pas à la manière dont moi, je voudrais les poser, ces questions-là. Et c'est là qu'en fait, moi, je me retrouve un peu piégé dans ce jeu de la boucle des suggestions YouTube sur le même thème. C'est que du coup, j'ai des réponses qui arrivent à l'appel, et il n'y en a aucune qui rentre exactement dans la case où j'aurais besoin d'une réponse, quoi. Donc, c'est à la fois une espèce de super grande bibliothèque virtuelle avec énormément de savoir, sauf que moi, je me rends de plus en plus compte que je sais absolument pas comment y chercher, quoi.
Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu ce morceau. C'était My Heart Will Go Home. Voilà. Et du coup, repris par un groupe qui s'appelle PMG pour Post Modern Jukebox. Et du coup, l'idée de cette chaîne YouTube, c'est de faire des reprises de tubes dans des styles années 40-50. Voilà. Et celle-là, je pense que c'est une des meilleures. Alors, par rapport à ce qu'on parlait en fait des cultures transpédéguines sur YouTube, moi je me rends compte qu'en ce qui concerne donc le G, les Gouines sur le YouTube francophone, ben il n'y a pas grand chose qui me plaît en fait. Donc je me suis demandé pourquoi. C'est-à-dire des personnes qui fabriquent du contenu autour du fait d'être LGBT, ou Gouines en tout cas. Alors je me suis dit, premièrement, il y a l'adresse. Du coup, qui est le public auquel on s'adresse? Et des fois, je sens que je ne suis pas la cible, que c'est vraiment des vidéos pédagogiques adressées à la personne lambda pour qu'elle comprenne pourquoi il faut arrêter de faire chier les personnes LGBT et pourquoi il faut nous respecter. Et parfois, j'ai aussi l'impression qu'on est en train de réinventer la roue. Alors, un exemple, c'est du coup une chaîne que je regarde quand même pas mal, qui parle de livres et qui dit « Ah, ça serait hyper bien de fabriquer un site internet sur lequel il y aurait toute une liste de bouquins féministes et ça serait un truc collaboratif, etc. » Et à aucun moment est soulevé le fait qu'il y a déjà des bibliothèques féministes qui existent. C'est-à-dire qu'il y a déjà des espaces de sociabilité autour de cette littérature-là, d'échanges, de pratiques qui sont gratuites et qui se passent dans le monde réel. Du coup, moi, je me pose la question de quels sont les liens, en fait.
Oui, quelle est la porosité, justement, entre le virtuel, l'info que tu vas chercher sur YouTube ou sur des médias sociaux, et ces lieux qui existent et qui souvent, ne sont pas visibles comme accessibles sur ces médias sociaux-là.
Et une autre question aussi, enfin une des choses que je me dis, c'est aussi ben, que la plupart du temps, c'est une personne qui s'adresse à plein de personnes. Et du coup, ça fait que ça met en jeu l'individu et le collectif d'une certaine manière, comme ben, tu le disais, Paul, en fait, de réception, quoi. Et moi, je trouve que la pensée, elle est beaucoup plus riche et elle est beaucoup plus intéressante quand elle est collective. Et c'est ce que je vis dans les médias que je fabrique, comme la radio ou comme d'autres choses, en fait. Un positionnement, un moment qui ne va pas juste mettre en avant une individualité.
Voilà. Ouais, et puis c'est compliqué sur YouTube de donner à voir. Je ne sais pas si c'est... moi, je ne fabrique pas de vidéos, donc je ne mesure pas dans quelle mesure c'est possible de rendre ça visible, mais de rendre visible le travail collectif, en fait, ça c'est compliqué, parce que ce truc face caméra, justement, qui est vraiment un truc, une manière dont les vidéos YouTube, je trouve, se normalisent beaucoup, ce truc de je parle à ma caméra comme si je parlais en tête à tête avec quelqu'un, ça fabrique, en fait, une position individuelle, ouais, qui je trouve, enfin moi je trouve pas de vidéo qui me donne vraiment à voir qu'il y a un collectif derrière, une communauté derrière, et je trouve que c'est marrant que l'usage de ce mot là il soit hyper crispant dans plein de domaines publics en France. Par contre, sur les réseaux sociaux et particulièrement dans les abonnés d'une chaîne, on parle d'une communauté, les personnes qui produisent du contenu sur YouTube, elles vont parler de leur communauté, en fait. Et il y a une vraie question, je trouve, ce point de contact entre c'est quoi le lien de cette communauté avec l'expérience réelle, et du coup c'est quoi, enfin qu'est-ce qu'on trouve dans cette communauté virtuelle là, qu'est-ce qui passe dans le monde réel entre guillemets et qu'est-ce qui passe pas.
Ben, en général, j'ai l'impression que ce qu'on nous propose en tant que personne usagère de YouTube, c'est soit de laisser des commentaires pour dire qu'on aime, pour contrer les commentaires négatifs, soit de participer à des crowdfunding pour que la personne puisse vivre de sa passion, c'est-à-dire fabriquer des vidéos sur un contenu spécifique sur cette plateforme. C'est assez faible en termes de communauté, je suis bien d'accord.
Sur l'opposition virtuelle réelle, j'ai tendance à plutôt opposer le virtuel au physique, et que les deux de toute façon sont réels, et que le militantisme en ligne n'est pas moins réel. C'est Mais par contre, sur l'interaction entre les deux, il y a vraiment effectivement un... Comme c'était dit, de réinventer la roue, et ça, c'est un truc qui est compliqué à faire un pont entre les deux, de vraiment réussir à joindre l'un et l'autre. Et l'un des soucis, en fait, c'est effectivement de sous-entendre que le virtuel n'est pas réel. Par exemple, le militantisme de Tourbillon Fou, Micha, sur Twitter, qui a permis de visibiliser beaucoup les personnes intersexes. Et tout ce qu'il a fait, en fait, toute la visibilité qu'il a pu donner grâce au militantisme virtuel. On voit pas les guillemets quand... Désolé. Ça a permis plein de personnes intersexes d'avoir des informations et de pouvoir savoir qu'elles sont intersexes et pas un terme pathologisant ou voilà quoi. Et du coup, ça, c'est du militantisme réel.
Oui, et puis quand même, il y a pas mal d'assos qui ouvrent des forums et des chats de discussion sur Internet et qui sont que tu peux trouver dans des villes qui existent vraiment, quoi. Et des personnes que tu peux rencontrer sur le net qui ont les mêmes blases dans ces assos et qui militent de côté. Non, c'est sûr, mais il y a quand même un côté à des moments qui manque de porosité. Et voilà.
Alors, donc ça va être encore du YouTube anglophone, mais on avait envie de vous parler de ContraPoint, du coup, qui est une YouTubeuse trans américaine qui fait du contenu où elle parle de plein de choses, de musique classique, de trans, de nazis. Et là, c'est un extrait d'une vidéo qui s'appelle « Dégénérescence », où elle vient expliquer d'où vient ce terme « dégénérescence » et pourquoi c'est des choses qu'on lui dit régulièrement, qui est extrêmement drôle. Et moi, je pense que je suis assez fascinée par son univers. Il faut bien que j'avoue qu'il y a quelque chose de vraiment plaisant. Enfin, je veux dire, quand Paul, tu me l'as fait découvrir, j'ai passé 48 heures à regarder toutes ces vidéos. Voilà.
Condoms and orgies and mass immigration, malt liquor 40s and miscegenation, boys who use dildos and girls with cock rings, these are my favorite degenerate things.
Very cute, but don't you think they might have a point about the drugs and alcohol?
Oh goddamn, fine, we'll talk about the alcohol thing.
So I have to be responsible and I hate it. So look, if you're gonna drink, I'm certainly not gonna stop you, but don't even think about driving, okay? Drink lots of water and pace yourself. There's plenty of time to be blackout when you're dead, and you're gonna be if you don't take it slow. Alcohol is dangerous. It's unhealthy, it's only fun in moderation, and it can put you in really vulnerable situations with really horrible people. So I would never recommend that anyone get involved with alcohol for any reason. I mean, unless you like having fun and feeling good. Where were we?
Absinthe and coffee and bitchy sarcasm, estrogen crying and fruitless orgasms, Antifa furries and NB drag kings, these are my favorite degenerate things.
Why does everyone hate decadence so much? Is pleasure really so wrong?
Alors, on vient d'écouter donc un extrait de la chaîne de ContraPoint. Je voulais rebondir sur cette question du réel, entre guillemets. Merci d'avoir insisté que c'était plus une question de ce qui était physique plutôt que le terme réel. Je trouve que c'est vraiment éloquent comme distinction. Et ouais, il y a du pouvoir, il y a un réel pouvoir dans le savoir qu'on trouve sur YouTube, il y a un réel pouvoir aussi dans la visibilité que ça fabrique. Là aussi, où je trouve que c'est cruellement réel, entre guillemets, ce qui se passe dans cet espace qu'on décrit comme virtuel, c'est le cyberharcèlement, qui est de plus en plus visible parce que les YouTubeurs et les YouTubeuses le dénoncent aussi. Mais c'est aussi un lieu d'une extrême violence, quoi. YouTube.
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'en général, la plupart des vidéos se terminent par « si vous aimez le contenu, eh ben soutenez-moi d'une manière ». Du coup, c'est, enfin, pour moi, c'est le double enjeu, à la fois que c'est un enjeu financier et à la fois c'est un enjeu de... Eh ben, du coup, que ce soit pas uniquement les personnes qui détestent et qui ont des argumentaires vraiment dégueulasses et en général pas très construits, qui laissent des commentaires. Parce qu'en fait, c'est très pratique. Par exemple, la radio, en général, il n'y a pas des personnes qui viennent ensuite nous traiter de dégénérés, quoi.
Donc, ouais, je trouve que c'est un... Enfin, c'est un... Au final, c'est un lieu qui a... C'est vraiment un lieu, quoi, YouTube. Que ce soit... Enfin, je trouve que ça a du sens d'en parler comme dans un lieu qui soit... qui passe par une interface Internet, quoi. Mais qui a un statut super ambivalent pour nous, je trouve, de ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Je trouve que c'est ce qui ressort. Pour nous et pour nos collectifs aussi, parce que c'est ça qui est en jeu aussi. C'est à la fois un lieu où on peut apprendre de ses pairs dans un contact qui potentiellement est hyper empouvoirant par son caractère peut-être un peu dématérialisé, mais qui est aussi un lieu où la visibilité elle permet le meilleur comme le pire du pire, quoi. Et donc je pense qu'il y a une vraie influence de YouTube sur ces questions de visibilité, justement dans le militantisme plus physique, entre guillemets, quoi. Ça permet de dire les choses, ça permet des coming out, ça permet de formuler des choses peut-être plus facilement. Donc ça visibilise certaines choses sur cette plateforme virtuelle. Et donc je pense que quelque part ça donne aussi forme à ce que les identités vont avoir comme visuel dans le futur, quoi. Je pense que YouTube, ça fabrique maintenant ce que sera le placard dans les années à venir. Quelle forme il aura, qu'est-ce qui va toucher dans les vies des gens qui se seront construits en partie avec YouTube. Moi, je suis pas devin, donc je peux pas deviner à quoi ressemblera le placard du futur, mais je pense que là, YouTube joue un rôle hyper conséquent dans la construction de cette question de la visibilité, aussi parce que c'est un média qui est accessible dans une certaine mesure, hein, toujours, mais qui est aussi accessible à des personnes jeunes assez facilement.
Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu penses à un manque d'aller-retour entre le monde physique et le monde virtuel? C'est-à-dire que des personnes, elles vont regarder des vidéos qui leur font du bien, qui leur permettent d'exister chez elles, mais qui, dans l'espace physique de la rue, de leur entourage, vont rester, entre guillemets, dans le placard.
Non, je ne sais pas tant si c'est une question de manque d'aller-retour. Je pense que ça va fabriquer des stratégies de visibilité différentes.
D'accord.
Ben, moi, je trouve, par rapport à ça, il y a aussi la question de la transparence. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on, la plupart du temps, vu que c'est pas tout le monde qui fait ça, mais évidemment, beaucoup de l'intimité, un discours en face à face et tout ça, donc vraiment un espace de confiance d'une manière, et en même temps avec ce truc d'être exposé à tout le monde et notamment à plein de commentaires vraiment dégueulasses, et ben du coup se pose la question de la transparence, de qui es-tu sur YouTube, en fait. Est-ce que tu construis des personnages? Par exemple, ContraPoint raconte dans une interview qu'en fait elle fait dialoguer plusieurs personnages qui sont elles-mêmes pour pouvoir avoir des points de vue différents, et que ça permet aussi de distancier, en fait, de critiques, un moment de se poser la question de qui est ta personne sur YouTube, qui es-tu dans la vie, en fait, d'avoir des personnages fictifs. Parce qu'il y a aussi plein de personnes, de créateurs, créatrices, et ça commence à sortir, qui racontent des dimensions de burn-out, de problèmes avec des enjeux de célébrité, des dépressions, de précarisation du taf, et de pression à la production.
Et oui, parce que c'est quand même super important de le souligner, c'est que YouTube, c'est une entreprise, et du coup, on est complètement dans une culture de consommation, ici, et c'est en gros, moi quand je suis dans mes trucs d'ASMR existentiel, j'ai un peu l'impression de confier mon intimité à Google, ce qui est exactement le cas au final, parce que on peut pas centraliser ses choix de vidéos dans un compte YouTube si on n'a pas l'adresse Gmail. Du coup, on rentre complètement dans cette circulation de données qui bénéficie à un système néolibéral qui écrase aussi les personnes qui produisent du contenu.
Et puis il y a aussi la question de la communauté, parce qu'en fait, pour pouvoir laisser des commentaires, pareil, il faut avoir une adresse Google. Mmh. Du coup, c'est vraiment, voilà, on livre notre intimité à Google. Mais bah, heureusement, il y a des alternatives.
Ouais. Summer Love de Trevor Something.
Et alors maintenant, on va plus laisser la parole donc à Victor et Powie qui sont venus parler donc du collectif Queer to Peer. Et donc bah, ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de monter une plateforme vidéo alternative de YouTube ?
Alors je parlais parce que il n'était pas là encore quand on a créé la plateforme. Donc on était deux, Ayman et moi, on avait regardé, c'était à l'époque où les vidéastes se plaignaient sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, de la censure de YouTube, qui démonétisait les vidéos, plein de soucis qui s'empilaient sur YouTube, qui mettaient même des vidéos avec des discours purement transphobes devant des vidéos de personnes trans, donc en publicité. Les transphobes payaient des publicités devant nos vidéos pour diffuser leur message de haine. Et du coup, suite à tous ces problèmes compilés et que ça faisait un moment quand même qu'on avait envie qu'il y ait une plateforme de vidéos queer libre, et que Peertube en plus de ça allait sortir dans pas longtemps, il y avait plein de choses qui se compilaient et à un moment donné je râlais parce que il y avait personne qui avait monté d'instance queer de Peertube, enfin vraiment c'était pas possible, et en fait comme a dit Clémentine Jane tout à l'heure, quand tu trouves pas, quand tu trouves que ça manque, fais-le toi-même. Et ben, au bout d'un moment, avec Iman, j'ai contacté Iman, j'ai fait, ça te dit, on monte quelque chose, on fait un queertube, et il m'a dit, mais j'y connais rien en technique. Non, mais je m'occupe de la technique, toi, de la communication.
Et juste, est-ce que tu as parlé de Peertube, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est Peertube?
Alors, Peertube, c'est un logiciel, basiquement, qui tourne sur notre serveur et qui va faire fonctionner notre logiciel de vidéo. Donc moi, je l'ai installé en 2 heures parce qu'il a mal fonctionné les 2 premières fois. Mais sinon, ça s'installait en une demi-heure, quoi. Il y a tout le tutoriel qui est expliqué sur joinpeertube.org. Le tutoriel, je crois qu'il est encore qu'en anglais. Mais du coup, voilà, j'ai installé ça sur notre serveur, un serveur qu'on a pu louer en financement participatif. Et on a installé ça facilement et sans trop de soucis. Et du coup, ça gère tout le site internet, les échanges de vidéos, tout ça. Et ça fait partie d'une fédération. Donc, toutes les instances Peertube sont connectées, plus ou moins. On peut avoir Framatube, qui est l'instance de Framasoft, une association de promotion de logiciels libres. On a plein d'instances qui vont communiquer avec Queertube. Et quand on va sur Queertube, on va pouvoir voir les vidéos des autres instances. Et quand on va sur les autres instances, on va pouvoir voir les vidéos de Queertube.
Et alors, justement, Queertube, comment plus explicitement ça fonctionne plutôt combien vous êtes dans le collectif, combien de personnes ça nécessite de faire vivre et maintenir la plateforme? Elle a 6 mois, c'est ça, la plateforme?
Elle a 6 mois, c'est ça. Elle a été montée au mois d'août. À la base, on était donc 2 pour lancer le projet. On a eu des personnes qui nous ont rejoints, heureusement. Et en plus de ça, la personne avec qui j'avais créé est partie depuis. Enfin, elle est toujours là, mais elle n'est plus active. Et du coup, on est
environ une dizaine. On est beaucoup plus que ça dans les discussions en général et à suivre les actualités. Mais en membre vraiment actif et active, on est environ une dizaine aujourd'hui.
Et alors, parce que Queertube, donc c'est la plateforme vidéo, et dans votre collectif, vous avez d'autres activités?
Alors, pour le moment, non. Mais justement, en fait, ça fait 6 mois qu'on avait Queertube, et je dis « on », mais je suis tout récemment dans le collectif. Donc je ne veux pas m'attribuer non plus le travail des autres, mais on s'est dit, on a monté une plateforme alternative à YouTube qui s'appelle Queertube pour essayer de promouvoir un maximum et donner la visibilité à du contenu queer. Pourquoi pas monter d'autres services qui pourraient aussi bénéficier à toutes les personnes queer qui essayent de créer du contenu, qui essayent même des fois sans en créer, d'en partager entre elles et pouvoir référencer plein de choses comme ça. Le but, c'est de créer un endroit où on pourrait référencer plein de choses. On a créé un YouTube libre, entre guillemets, je fais les guillemets avec mes doigts.
Et pourquoi entre guillemets alors?
Parce que c'est pas vrai. Je l'ai appelé YouTube parce que c'est pour faciliter, Mais Peertube, c'est un peu l'inverse de YouTube. Tu parlais de Framasoft tout à l'heure, c'est en fait un projet qui a été lancé par Framasoft. Donc Framasoft, qui est une association qui est là pour promouvoir les logiciels libres. Et donc c'est dans le cadre de la campagne Dégoogolisons Internet et du Contributopia. Alors Contributopia, c'est... En fait, Framasoft a créé plein de... Enfin, donné l'exemple de... Regardez, on peut faire plein de... Et installer plein de logiciels libres. Et le problème, ils se sont dit, oui, mais tous les utilisateurs, du coup, et l'utilisatrice qui veulent, du coup, travailler sur des choses libres vont venir chez nous. Et on va se retrouver à être le, entre guillemets, Google, encore une fois, Google du libre, parce que tout le monde sera chez nous. Et c'est pas ça qu'on veut. C'est justement avoir un fonctionnement décentralisé où, il n'y a pas une seule grosse entreprise ou un seul gros organisme au milieu. Qui gère tout et tout le monde, c'est chacun peut installer des logiciels libres et tous les utilisateurs et les utilisatrices peuvent aller n'importe où. Et donc du moment, Contributopia, c'est pour dire, regardez comment on fait, c'est facile à installer, etc. Il y a plein de tutoriels pour installer des services, afin justement de faciliter à tout le monde l'installation de ces logiciels et qu'il y ait le plus de monde possible et qu'on fonctionne de manière décentralisée. C'est ce que cherche à promouvoir Framasoft. Et du coup, avec Peertube, c'était le but de faire un YouTube décentralisé. Avoir un service qui fonctionne en décentralisé. C'est-à-dire que, par exemple, un jour, on fait des vidéos queer, on va sur une instance de Peertube. Alors, une instance, c'est juste Peertube qui est installé quelque part, ça peut être installé à plein d'endroits. On commence à mettre nos vidéos queer, TGP, etc., comme on veut. Et puis, un jour, on se rend compte que, en fait, les personnes qui gèrent le site sont pas du tout d'accord avec ce qu'on fait, nous. Déréférence nos vidéos ou essaye de les virer, etc. Comme par exemple sur YouTube, il y a eu à certains moments où il y a eu une vague de démonétisation, c'est allé au point qu'ils ont fait une mise à jour du robot en fait YouTube qui analyse les vidéos, et donc il y a des personnes qui ont fait des tests, et en postant deux fois exactement la même vidéo, une fois avec trans dans le titre de la vidéo et une fois sans, la fois où il y avait trans dans le titre de la vidéo, elle était automatiquement démonétisée. Donc, on peut se poser des questions quand même. C'est-à-dire que ça ne dépend même pas du contenu de la vidéo en elle-même, c'est juste le titre. Donc, si un jour on se rend compte qu'il y a un problème comme ça, qu'on nous enlève plein d'avantages parce qu'on met trans dans le titre de notre vidéo, l'avantage avec quelque chose qui est décentralisé, pas comme YouTube, où il y a un seul YouTube quelque part, c'est que, bah tiens, si ça nous embête, si on n'est plus bien là où on est, on peut prendre toutes nos vidéos et aller sur un autre Peertube autre part, qui, comme par exemple QueerTube, si vous êtes d'accord avec nos conditions d'utilisation et comment on le gère. Et on peut se balader comme ça, aller autre part si ça nous plaît pas, et on reste vraiment libre de ce qu'on fait, de où on le met et de ce qu'on crée.
Et ça nous permet nous aussi de dire non à certains contenus sur QueerTube qui pour nous n'ont pas leur place. Alors quand on se comprend bien, on accepte tous les contenus tant qu'ils sont publiés par des personnes queer, enfin, plus ou moins tous les contenus, sauf évidemment quand il y a des discriminations dedans, ce qu'on n'accepte pas du tout. Mais par exemple, on dit beaucoup plus facilement non à un contenu qui va avoir une description avec la cisnormativité, par exemple, sur QueerTube, on n'en veut pas trop. Et on va leur dire tout simplement, en fait, ta vidéo, elle peut être en ligne, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste, tu l'héberges pas chez nous, en fait. Tu l'héberges chez le voisin, quoi. Ou chez toi.
Voilà. Et donc, là, toute l'émission, on a parlé de la communauté TPG, queer. Pour vous, là, en mettant en place QueerTube, c'est quoi l'importance pour vous de la communauté queer sur le net, puisque vous avez quand même décidé de dédier un serveur, du moins une instance au queer, quoi.
Alors ouais, effectivement, déjà je suis une meuf trans en fait. Ça aide quand même pas mal à comprendre, et du coup en fait il y a un truc, c'est que sur YouTube, comme on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure au tout début, c'est-à-dire que pour rappel, on disait que sur YouTube on avait tendance à aller voir plutôt des hommes cis blancs. Enfin, on l'a pas dit dans ces mots-là, mais c'est ce qu'on va voir en fait sur YouTube. Et ça manque beaucoup de personnes qui ne soient pas des hommes cis blancs, comme qui publient du contenu. Et du coup, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est la communauté de laquelle je me sens la plus proche. Et c'est la communauté queer. Je trouverais ça super qu'il y ait d'autres communautés qui fassent leur propre instance. Et on est clairement pour leur donner les clés. Vous voulez faire comme nous pour cette communauté, bah tenez, on vous dit comme on a fait, quoi.
Oui, c'est ça. Et au moins les personnes qui sont sur QueerTube sont tranquilles, parce que sur YouTube, s'il y a des personnes qui, si on poste une vidéo sur les traitements hormonaux comme on parlait tout à l'heure ou quoi que ce soit, on est obligé de côtoyer les personnes transphobes qui sont sur le même YouTube, et on peut pas faire autrement. Alors que nous, du coup, si vraiment il y a des discriminations comme ça, on peut virer les personnes parce qu'elles respectent pas du tout d'un point de vue discrimination ce qu'on voulait. Et ça, je me fais une réflexion tout à l'heure aussi, ça m'étonnerait pas du tout que sur YouTube, il y ait des chaînes, etc., des personnes qui créent du contenu queer, mais qui n'ont pas de visibilité parce que, bah, vu la masse de vidéos qui sont uploadées chaque jour, je crois que c'est plusieurs années chaque jour de vidéos qui sont uploadées sur YouTube dans le monde, c'est vraiment difficile de trouver ce qu'on veut et vraiment, quand on crée, d'avoir de la visibilité. Donc souvent, ça passe par d'autres réseaux comme Twitter, etc.
Donc, en plus des questions de dégoogliser, de sortir de choses capitalistes et de décentraliser des serveurs, il y a la question, donc tu dis, du meilleur référencement, mais aussi d'une charte, d'une sorte d'éthique de la plateforme.
Oui, c'est ça. Et puis, au moins, ça centralise ça permettrait un petit peu de centraliser. On veut pas non plus être le YouTube où il y a tous les trucs queer, le pire tube en tout cas. Mais ça permettrait d'avoir plus de contenu. Au moins, on est dans la catégorie de vidéos qu'on pourrait rechercher, en tout cas. Et ça permettrait, du coup, de peut-être trouver plus facilement des choses, de permettre à certaines personnes de créer plus facilement, etc. Et oui, comme on disait, de sortir de Google et du coup, de ne pas être obligé de leur donner toutes nos informations personnelles, de leur dire, bah tiens... Parce que je suis sûr que maintenant, en fonction des chaînes à quelles on est abonné, Google peut savoir notre orientation sexuelle, etc. Peut-être notre identité de genre, etc. On ne sait pas, et on n'a pas forcément envie de leur donner toutes ces informations. Enfin, personnellement, j'ai pas trop envie. Je sais pas vous, mais...
Nous non plus.
Et du coup, Peertube, c'est un logiciel libre qui n'utilise pas les données. Et nous, Peertube, on ne vendra pas vos données à des entreprises tiers. On vous le promet.
Donc c'est récent et donc on a intérêt d'aller aussi nourrir l'instance. Et aussi, juste rapidement pour finir, je voulais un peu vous poser la question. Donc sur Queertube, pour l'instant, c'est des contenus en quelle langue qu'on trouve? Parce que là, en fait, pendant l'émission, on a beaucoup entendu de contenus anglophones, alors que les personnes, elles sont pas forcément américaines ou anglaises. Et du coup, la langue anglaise est beaucoup utilisée j'ai l'impression, les chaînes que des personnes regardent. Et donc, là, sur Queertube, pour l'instant, en tout cas, c'est tout jeune, mais...
On a un peu de contenu sur quand même, mais je saurais pas dire en fait pour une partie des vidéos parce que je ne sais juste pas quelle langue c'est. Alors je crois qu'il y a des vidéos en russe, en polonais, il y a eu des vidéos en français. On est quand même un collectif français à la base, j'allais dire francophone, mais faut quand même être honnête. Et du coup, il y a un peu toutes les langues sur Queertube. Et je crois pas qu'il y ait vraiment beaucoup de vidéos en anglais, en fait.
Non. Il y a beaucoup, notamment une youtubeuse trans qui a mis toutes les vidéos qui étaient sur chaîne YouTube, elle les a mis également sur Queertube. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore. Après, on n'a pas forcément encore beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices qui postent des vidéos. Mais vu qu'on est en France à la base et qu'on commence à faire de la communication autour de nous en France, je pense qu'on va principalement avoir des personnes françaises au début, en tout cas le temps qu'on soit connu un petit peu, et puis on espère que les personnes qui cherchent des informations trouveront plus facilement sur Queertube.
Et alors, pour que des personnes s'inscrivent là, comment concrètement on fait là, si en écoutant l'émission on se dit ah, j'ai envie d'aller créer un compte et publier, je sais pas, un avis, un commentaire sur un film que je viens d'aller voir, etc.
Alors c'est rigolo, on avait fait un contrib-atelier, donc un atelier de contribution avec Framasoft, et on avait fait des tests utilisateurs, des personnes qui avaient jamais testé la plateforme, qui devaient aller se connecter et uploader une vidéo. Et on regardait comment se débrouillait la personne pour voir comment on pouvait améliorer l'interface pour que ce soit plus facile à faire. Et du coup, apparemment, c'est plutôt facile à faire, en tout cas maintenant. Et donc, si vous allez sur queertube.org, tout attaché, minuscule, majuscule, vous en fichez, les cas, c'est pas important là-dessus. Queertube.org, et vous allez vous inscrire facilement, le bouton, vous le trouverez facilement. uploader une vidéo. Normalement, le bouton il est un peu plus compliqué à trouver, on a vu dans les tests utilisateurs. C'est en haut à droite, vous avez une petite flèche sur fond rose-violet.
Très bien, et ben, il est déjà 18h, on va s'arrêter là. Peut-être que vous retrouverez bientôt le contenu des émissions de On n'est pas des gâteaux sur QueerTube, qui sait. Et puis merci d'être venu à l'émission.
Merci.
Merci. Avec plaisir.
Et on se retrouve nous dans deux semaines. La semaine prochaine, c'est Lilith, Martine et les autres. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.
Potato chips. The big question. The basis of TV in the 80s will still be your home television set. But don't think of it as just a receiver of programs from networks or local stations. It's becoming a central display terminal, able to show pictures from a growing number of electronic sources.
Each other's
taste like...